Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdo sur tendanceouest.com et toutes les applis tendance. On est parti pour une vingtaine de minutes. On va le faire très ramasser aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de championnat la semaine dernière en Ligue 2 et on va s'intéresser de près à la manière de combler cette trêve internationale et sur au prochain rendez-vous de nos deux clubs phares de Normandie, le HAC et le Stade Malherbe Caen. Pour parler du HAC, vous le reconnaissez, il est là très souvent en notre compagnie, c'est Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien.
Salut Sylvain, bonjour Max.
Salut à toi Max, du côté de Malherbe Inside, Maxime le Normand, bienvenue. Évidemment, comme son nom l'indique, il est là pour nous parler de Malherbe. Salut Max.
Salut Sylvain, salut Adrien, salut à tous.
Messieurs, trêve internationale, des joueurs partis en sélection, d'autres qui sont restés, avec du côté du HAC et du côté de Caen, deux pentes psychologiques assez différentes. On en a parlé la semaine dernière. Je commence avec vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. On va commencer du côté du HAC. Comment ça se passe au HAC ces deux semaines de trêve avant de reprendre un championnat qui s'annonce copieux?
J'imagine que ça se passe plutôt bien. Le Havre, de toute façon, avait besoin peut-être de cette pause aussi pour laver l'affront vécu au Paris FC. Le Havre a fait un non-match sur la pelouse du Paris FC, perdu 3-0, montré aucune intention. Donc ça a pu faire du bien forcément cette petite pause, cette petite trêve internationale pour recharger les batteries, psychologiquement et puis physiquement. La direction, on a aussi profité pour redonner un petit peu un cadre à tout ça.
J'allais vous le dire. Vincent Volpé s'est exprimé, a profité de cette trêve internationale pour prendre la parole, le président du HAC. Vous en avez pensé quoi de son intervention, Adrien?
L'intervention, elle était là surtout, je pense, pour un petit peu éteindre les critiques. Alors, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a senti un HAC qui a voulu parler d'une seule et même voix. Puisque Vincent Volpé ne s'est pas présenté seul en conférence de presse. Il s'est présenté avec Pierre Ventier et Paul Le Guen. Ils sont arrivés tous les trois. Ils ont parlé d'une seule et même voix, enfin à l'unisson, avec un discours qui était unanime. C'était celui d'un club qui n'a pas changé ses ambitions, malgré un mercato qui a été jugé par beaucoup décevant. Le club réaffirme son envie de jouer les premiers rôles, de monter en Ligue 1. Alors après, justement, le club a aussi précisé qu'il ne voulait pas le faire n'importe comment. C'est pour ça qu'en fait, ils ont un petit peu justifié ce mercato fait de manière très, très raisonnable économiquement, puisqu'il n'y a eu aucune dépense de fait alors qu'on avait reçu des... pour le coup, dans les caisses,
une grosse somme d'argent. Est-ce que ça s'entend, ça? Le Havre aurait été en difficulté s'il avait dépensé de l'argent, selon vous?
Non, je ne pense pas, puisqu'il le précise bien d'ailleurs que le Havre, avec la vente aujourd'hui, c'est remis stable économiquement. Après, en fait, tout va dépendre des prochains résultats, et c'est là que ça va être très important, puisque en fait, si les prochains résultats laissent entrevoir un HAC qui retrouve le Havre qu'on a connu face à Guingamp, face à Nancy, à Guingamp, exactement. Là, en soi, ils auront eu raison sur tous les points, puisqu'ils n'auront dépensé aucun centime, ils auront une équipe qui est efficace sportivement, pertinente sportivement, donc là-dessus ça serait positif. Par contre, si dans les prochaines semaines justement on ne retrouve pas les résultats attendus sportivement, là toute leur politique un petit peu s'effondre, puisque on verra que l'attaquant qui aurait dû pallier le départ de Sino Kadewere n'est pas arrivé. Jamal Thierry se retrouvera seul, même si Khalid Boutaïb est arrivé dans les dernières heures, mais on n'a aucune certitude sur son niveau actuel. Donc là, oui, ça pourrait être compliqué et les supporters pourraient monter au créneau pour justement critiquer ce mercato qui est pour l'instant jugé décevant, dont on attend maintenant, dans les prochaines semaines, de voir vraiment si le HAC a eu raison de prendre ce parti pris, de tenter des paris, ou si justement il aurait mieux valu contenter les supporters avec un achat digne de ce nom. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment les prochaines semaines qui vont déterminer. Et c'est en cela que ce retour-là contre Châteauroux et puis ensuite à Dunkerque-Capot va être déterminant.
Déterminant, on l'avait dit la semaine passée, le trio de matchs de retour de cette trêve internationale est très important pour les Havrais. Sincèrement, on va revenir sur les supporters. Adrien, vous êtes à leur contact chaque semaine dans les colonnes du Courrier Cauchois. Ils sont vraiment mécontents déjà, les supporters. On sent déjà une espèce de ras-le-bol, ou est-ce qu'on est encore un peu dans le doute?
On est dans le doute, j'imagine, puisque pour l'instant, c'est difficile encore d'enfoncer complètement ce HAC. Après 6 journées, le HAC n'est pas décroché et c'est pour ça qu'en fait, c'est les prochaines semaines qui vont être importantes. Aujourd'hui, la situation, elle est telle que le HAC, au final, est 11e, a un bilan qui est sportivement mitigé avec trois victoires, trois défaites. Mais en fait, comptablement, ils ne sont pas si loin que ça. Il n'y a que 4 points de retard sur le Paris FC qui est leader, 3 points de retard sur le podium et 2 points de retard sur le dernier barragiste. Donc, comptablement, pour l'instant, rien n'est fait et le Havre est toujours dans la course. Les prochaines semaines, là, par contre, vont décider un petit peu de l'avenir du HAC. Justement, là, il y a 3 matchs importants qui vont se présenter. Et sur ces 3 matchs-là, il va falloir prendre des points pour se replacer, justement, et pas laisser, en tout cas, ce wagon de tête partir trop loin et, du coup, engendrer ce mécontentement des supporters, parce que là, pour le coup, il pourrait y avoir mécontentement et ce serait logique.
Et ce serait logique. Les 3 matchs, on s'y intéresse parce qu'on ne peut presque pas les dissocier les uns des autres, finalement. Ce sont 3 matchs contre 3 adversaires dont on ne préjuge pas des qualités, mais en tout cas, ce ne sont pas des adversaires destinés à jouer le haut de tableau de Ligue 2. Pau est promu, Dunkerque est promu, Châteauroux est une équipe qui se bat chaque année ou presque pour son maintien. Sincèrement, c'est quoi l'objectif du HAC et de Paul Le Guen sur ces 3 matchs-là? On a presque envie de dire 9 points, Adrien.
Oui, presque envie de dire 9 points, c'est vrai. Alors, souvent, on a tendance à dire sur 3 matchs comme ça, avec un à l'extérieur, on va dire 7 points. 7 points, ce serait très bien. 9, ce serait encore mieux, forcément. Mais oui, c'est vrai que si le Havre veut avoir ses prétentions, en tout cas d'ambition de monter en Ligue 1, il doit confirmer sur ces matchs-là. On est face à 3 candidats qui sont, sur le papier en tout cas, inférieurs au Havre. Donc oui, il y a des points à prendre sur ces matchs-là. Il faut tout de suite se replacer.
Mais ce sera dur parce que ces 3 équipes, pardonnez-moi de vous couper, sont des équipes qui vont jouer le Havre comme on joue une équipe favorite, en défendant, exactement, en laissant la possession au Havre. Il va falloir trouver des solutions. C'est tout ce que le HAC ne parvient pas à faire, justement.
C'est tout ce que le HAC n'est pas parvenu à faire. Et j'espère que, justement, c'est tout ce que le HAC a travaillé pendant cette trêve. Justement, Paul Le Guen va devoir trouver les mots, trouver aussi les bonnes associations, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou même devant, pour justement trouver ces décalages et puis retrouver un petit peu un dynamisme pour venir à bout de ces 3 équipes. Alors oui, ce ne sera pas évident forcément, puisque face à des équipes qui sont comme ça réputées en inférieur et qui lutteront pour le maintien, souvent c'est des équipes qui vont se battre comme des beaux diables de la première à la dernière minute. Mais le Havre, en qualité en tout cas de favori ou de candidat à la montée, se doit de prendre des points face à ces équipes-là.
Petite question, comme ça, vous qui sentez le HAC et qui êtes souvent justement du côté du stade Océane, est-ce que vous sentez Paul Le Guen potentiellement en danger si ces 3 matchs ne se passent pas bien? Ça peut paraître complètement farfelu, mais on va forcément y venir à un moment si le mécontentement des supporters et si les résultats par là même ne gagnent pas en qualité.
Honnêtement, je ne pense pas. Après, ça ne reste que mon avis et c'est un avis personnel, mais je ne pense pas puisque la direction lui a récemment confirmé un petit peu son soutien. Ils l'ont prolongé. Paul Le Guen, en soi, lui, n'a pas eu justement les armes qu'il aurait pu avoir puisqu'il n'a pas eu les transferts. Donc, en fait, lui fait avec les moyens qu'il a. Le Havre, la direction ne lui a pas forcément donné de moyens pendant ce mercato. Ils ont pioché des paris, comme ils appellent ça. Donc, non, je le vois pas nécessairement en danger. En plus, sa cote de popularité été plutôt apprécié. C'est quelqu'un qui dégage toujours quelque chose d'optimiste, qui est plutôt apprécié de la part des supporters. Donc non, je pense pas que son poste, en tout cas, soit en danger. Mais bon, après, le football, ça va toujours très vite. On verra dans les prochaines semaines comment ça peut se passer.
Alors, on va terminer avec vous, évidemment, Adrien, cette partie HAC. Quels sont les joueurs, vous, que vous attendez au tournant de ces 3 prochains matchs dans l'effectif Havrais?
La défense centrale, c'est d'abord Pierre Gibault et Ertuğrul Ersoy sont attendus au tournant puisque en fait, ils nous avaient proposé quelque chose de très, très intéressant contre Nancy, ils ne l'ont pas reproduit contre le Paris FC, ils sont passés tous les deux au travers de leur rencontre. Donc cette charnière-là que Paul Le Guen associe sera attendue au tournant. Ensuite, on va voir aussi alors je ne sais pas s'ils seront titularisés contre Châteauroux, mais des joueurs comme Umut Meras et puis Victor Lécal qui étaient un petit peu sortis de ce groupe.
Là, finalement, parenthèse. Vous me faites l'ouverture parfaite dans la profondeur. Ces deux-là, ils vont devenir quoi? Ils voulaient partir, ils ont eu des touches pour partir. Ça a discuté en tout cas sur leur matricule. Ils sont toujours là. Comment on fait pour les remettre en selle?
Justement, ils n'ont pas eu le bon de sortie. C'est à eux de se remettre en route. De toute façon, ils ne vont pas se mettre sur la touche. Ça serait bête. C'est deux joueurs qui ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient apporter une réelle plus-value au HAC. L'an dernier, même en début de saison, c'était tous les deux considérés comme des cadres par Paul Le Guen. Donc, ils ont toute leur place dans cet effectif. C'est à eux maintenant de se remobiliser. Ils n'ont pas eu le bon de sortie attendu ou en tout cas, ils n'ont pas pu partir puisque les deux, en tout cas, étaient en instance de départ souhaités. Hein. Je le rappelle, Victor Lécal était pressenti du côté des pays du Golfe, notamment. Bon, voilà, ils n'ont pas eu le bon de sortie espéré. Maintenant, c'est à eux de se reconcentrer, de se remobiliser et puis voilà, de participer à cette belle aventure avec le HAC pour essayer de ramener le HAC justement vers les sommets du classement.
Un petit prono pour finir avec vous, Adrien, sur ce HAC Châteauroux.
HAC Châteauroux, 3-1 pour les Ciel et Marines.
Allez, 3-1 pour les Ciel et Marines. On vous retrouve dans quelques minutes, Adrien, pour parler Coupe de France, notamment. Ce sera ce week-end le 5e tour partout en Normandie. 14 rencontres, vous nous donnerez vos éventuelles surprises et en tout cas les matchs à suivre, Adrien. Et je me tourne vers le stade Malherbe de Caen. Regard au sud-ouest du Havre. On franchit la Seine, le pont de Normandie. Et on embraye sur la 13 direction Caen et direction le stade d'Ornano. Évidemment, pour parler du stade Malherbe, on retrouve Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Maxime, bah c'est un peu le même exercice qu'Adrien, mais avec un stade Malherbe de Caen dans un état d'esprit complètement différent de celui du Havre. Ça roule plutôt à Malherbe avant la trêve. Comment faire pour bien en profiter justement de cette trêve selon vous ?
Oui, oui, c'est un bon début de saison que nous a offert le stade Malherbe Caen. Ces deux semaines de trêve ont permis sans doute d'intégrer les nouvelles recrues, notamment Alexandre Mendy, de bien bosser. On sait qu'il était convoqué avec la sélection guinéenne. Finalement, il a préféré rester pour bosser avec sa nouvelle équipe. Donc ça, c'est très bien. Pas de match amical même. C'est un choix de Pascal Duprat. Certaines équipes ont voulu en faire, mais avec le Covid, c'était compliqué. On a vu qu'il y a eu des matchs annulés, etc. Donc finalement, on est resté à Caen et l'équipe a bien pu travailler. Donc dans un climat plutôt serein, puisqu'on reste sur une victoire contre Amiens. Donc ouais, tout va bien pour l'instant au stade Malherbe.
Avec des Canets qui sont à effectif complet cette fois. On va l'analyser un peu cet effectif, Maxime. Parce que finalement, du côté du stade Malherbe, en tout début de saison officielle, c'est-à-dire le 22 juin, le jour de la reprise de l'entraînement, il y avait 37 joueurs sous contrat. Tout le monde disait « c'est absolument énorme, messieurs, dames, on ne va jamais s'en sortir ». Depuis, il y a eu tout ce que vous avez pu suivre, chers auditeurs et chers spectateurs, sur la passation de témoins de la gouvernance malherbiste. Pour au bout du compte se retrouver à 30 professionnels encore aujourd'hui, finalement, ça n'a pas tant dégraissé que ça, Maxime ?
Un petit peu, et je pense que Olivier Piqueux l'avait annoncé, tout ne se fera pas en un mercato. Il y a eu quelques jeunes prêtés, notamment en fin de dernier jour même du mercato. On n'a pas réussi à se séparer d'éléments avec des gros salaires, je pense à Prince Onyangé.
Et là, où... Julien, justement, ouais. Les plus-values et ceux qui rapportent un peu d'argent. Moi, j'ai presque envie de me demander si ce n'est pas un choix.
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les deux joueurs qui ont un salaire important. Je pense à Prince Onyangé et Yacine Babou. On a vu d'ailleurs qu'Yacine Babou avait failli filer à Sofia. Je pense qu'il n'aurait pas été retenu s'il y avait eu un petit délai supplémentaire. Et puis, il y a les joueurs avec une valeur marchande importante que le club souhaitait garder, je pense. Alors, je pense à Caleb Zadi Seri, à Jesse Deminguet, Kélian Ensona notamment, Nicolas Gioacchini également. Il y a eu des sollicitations, hein, Olivier Piqueux l'a dit. Mais je crois que oui, la volonté du stade Malherbe était de les conserver, et je pense qu'il a été un petit peu aidé notamment sur le dossier Caleb Zadi Seri par sa blessure, peut-être par le début de saison un petit peu en demi-teinte de Jesse Deminguet. Voilà, donc finalement c'est quand même si on veut parler un petit peu du mercato, c'est un mercato plutôt réussi puisqu'on a conservé déjà tous nos cadres, et puis voilà, on s'est renforcé à moindre coût assez intelligemment avec surtout deux renforts principaux que sont Johan Cour et Alexandre Mendy. Donc voilà, il faut que
Alors, autant pour Johan Cour, c'est l'unanimité autour de ce joueur. Ses premières prestations, d'ailleurs, ne font que confirmer ce que l'on pensait tous. D'ailleurs, il aurait pu aller chez vous. Je vous vois regarder Adrien Casanova, mais il était aussi en contact avec le Havre. Pas de chance, il s'est arrêté un petit peu trop.
Mince.
En ce qui concerne Alexandre Mendy, c'est une énigme quand même. On ne va pas se cacher, Maxime.
Oui, on en a parlé un petit peu la dernière fois avec vous, Sylvain. C'est un joueur qui a... jamais joué en Ligue 2 depuis un moment. Il a joué à Nîmes un petit peu, où il avait, en fait, à chaque saison il marque environ entre 3 et 5 buts, donc c'est des statistiques pas extraordinaires. Maintenant, ça fait longtemps, comme je disais, qu'il a pas joué en Ligue 2. Il a souvent été prêté en Ligue 1 à Guingamp, à Brest la saison dernière, et à Bordeaux il a jamais vraiment réussi à s'imposer. Donc moi j'ai presque envie de dire que finalement peut-être que le niveau où il pourrait s'éclater le plus, c'est peut-être la Ligue 2, avec un championnat qui est plus physique, je pense, ou moins technique que la Ligue 1. C'est un profil qui se rapproche un petit peu, je pense, les supporters canadiens vont le découvrir, de Malik Tchokounté. C'est quelqu'un qui est capable de conserver le ballon de haut but. Ça va donner une corde supplémentaire à l'arc de Pascal Duprat en attaque. Ça ne sera pas quelqu'un qui va finir à 20 buts, Mais dans le 4-4-2 que semble vouloir installer Pascal Duprat, il peut avoir son rôle à jouer, je pense.
Ce 4-4-2, il a été installé pour la première fois à domicile. En tout cas, c'était la semaine passée, lors de la victoire 1-0 face au Amiens Sporting Club. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce premier essai en 4-4-2, selon vous, Maxime ?
Du positif. Je pense que c'est un système qui convient notamment très bien à Johan Cour. Voilà, c'est quelqu'un, on l'a vu, qui sans mauvais jeu de mots, qui court beaucoup, qui récupère des ballons.
C'est la seule fois de l'émission. Ouais, c'est comme à chaque direct, c'est une fois. Autorisé.
Ouais, il récupère beaucoup de ballons, il s'est bien battu. Voilà, on sait que dans un 4-4-2, il faut faire les efforts défensifs. Et je pense que Johan Cour est le joueur idoine pour ça. Il délivre une très très belle passe décisive. Après, on a un petit peu reculé. Il faut dire qu'Amiens, je trouve, a fait une très bonne prestation. C'était pas évident. Et je pense qu'on aurait peut-être pu repasser dans un milieu à 3 en fin de match pour consolider un petit peu tout ça. L'énigme du 4-4-2, c'est toujours de savoir si le milieu de terrain va tenir. Il a tenu avec Onyangé et Deminguet. On a souffert quand même contre Amiens, mais ouais, belle promesse. Et maintenant, on attend un petit peu encore plus d'allant offensif sur les prochains matchs.
Alors, les prochains matchs, justement, là encore, parfaitement, messieurs. Bravo, les deux ouvertures sont parfaites pour la suite des événements.
On a bossé.
Les trois prochains matchs, pareil, de la même manière que pour le HAC tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas les dissocier, les trois prochains matchs de Caen, parce qu'à l'inverse des Havrais, ce ne sont pas des équipes qui vont lutter ou qui en tout cas sont programmées pour lutter pour le maintien que Caen va jouer, mais proprement l'inverse, des équipes à vrai renom, à vrai potentiel. C'est l'heure du test pour le Stade Malherbe 2020-2021, selon vous, Maxime ?
Bah, on n'a pas encore joué les équipes du top 5 jusqu'à présent. On va en jouer deux en trois matchs, plus Guingamp qui est aussi, malgré son début de saison en demi-teinte, quand même une formation avec des joueurs de qualité. Mais je pense qu'on peut aborder ces matchs avec confiance et ambition au vu du début de saison cannais. Et puis, on en a parlé aussi la dernière fois, c'est que Malherbe avait, depuis le début de saison, beaucoup de difficultés à évoluer contre les blocs bas. Là, on va aller jouer à Niort et au Paris FC. Deux fois à l'extérieur contre deux équipes du haut de tableau, je pense que peut-être ce sont deux équipes qui vont un petit peu ouvrir le jeu et on va pouvoir en profiter avec les vitesses de Kélian Nsona, de Khaled Zadisseri qui va revenir aussi sur les côtés. C'est un paramètre important, je pense qu'on peut l'aborder aussi avec confiance ces matchs parce qu'on va retrouver justement un effectif complet pour la première fois avec à la fois tous les joueurs qui étaient blessés qui sont de retour, enfin notamment Khaled Zadisseri à l'exception de Steve Chamal, bon, qui reviendra qu'en janvier, et puis toutes les recrues qui ont eu le temps de bosser, de bien s'intégrer, etc. Donc c'est assez excitant là, les matchs qui arrivent. Je pense qu'on a un petit peu tous hâte de voir ce que ça va donner contre deux belles équipes qui vont, je pense, ouvrir le jeu, et ça peut peut-être réussir au Stade Malherbe justement.
C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter aux Malherbistes. Alors, vous en avez parlé, tout le monde revient. Là encore, on est à effectif à peu près complet du côté du Stade Malherbe. Elle peut donner quoi, cette équipe type, à partir de ce mois d'octobre, selon vous ? Peut-il y avoir des changements ? Parce qu'on dit toujours, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Celle-ci gagne plutôt de manière correcte et s'est bien placée d'entrée de jeu. Est-ce qu'il va falloir quand même la changer ?
Je pense qu'on va revoir à Niort la même équipe qu'on a vue à Amiens, avec un Khaled Zadisseri qui peut prétendre une place de titulaire, mais qui va démarrer probablement sur le banc.
Où ça, selon vous ? À droite ?
Ouais, je le vois plutôt sur un côté, en concurrence avec soit Kélian Nsona, soit Johan Cour. Mais ça va être l'interrogation du 4-4-2, c'est comment à la fois... Alors, sur Johan Cour, autant, comme je vous disais, j'ai pas d'interrogation là-dessus, mais comment Khaled Zadisseri et Kélian Nsona vont gérer les efforts défensifs sur les couloirs. Ce sont deux joueurs à fort qui percute beaucoup.
Fort potentiel
qui...
offensif.
Ouais. Exactement.
Percussion offensive, ouais.
Voilà. Mais qui, peut-être sur les efforts défensifs, feront un petit peu moins d'efforts qu'un Johan Cour. Donc, du coup... voilà, ça va être une des interrogations, mais je pense, moi je les vois en tout cas sur les côtés. Je pense que Zadisseri peut aussi évoluer devant, mais devant on a Bamou, on a Joaquini, on a surtout Mendy qui arrive également. Donc je pense que ces deux postes devant sont réservés à ces trois joueurs, plus Jeannot si son talon d'Achille le laisse enfin tranquille.
Alors par contre, petite parenthèse, sur les quatre que vous venez de citer pour les attaquants de pure qualité, est-ce que l'on peut considérer que Mendy et Bamou joueront très peu souvent en même temps ?
Alors, sans doute. Effectivement, ils ont en tout cas deux profils assez similaires. On l'a vu, hein, contre Amiens, Yacine Bamou a beaucoup été cherché sur des longs ballons. Il a joué en déviation pour la vitesse de Joaquini. Maintenant, à Nantes, il avait aussi un rôle un peu plus fin techniquement, parfois en numéro 10, en soutien de l'attaquant, en 9,5, comme on dit. Il peut-être aussi prendre ce rôle de pivot, plutôt de joueur qui va pivoter autour de Mendy. Exactement. Moi, je pense qu'il est assez polyvalent là-dessus. Bah, moi, il peut endosser les
Ouais,
deux rôles.
on est plus sur des profils Jeannot, Gioacchini pour jouer avec Bamou ou Mendy en fait.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, ça va aussi dépendre des états de forme de chacun. Gioacchini revient bien dans
Absolument,
l'axe.
absolument. Non, mais
Voilà.
là, on est dans une espèce d'idéal où les quatre sont au top de leur
Ouais,
forme et vous
ouais.
choisir.
Ouais,
Voilà,
bien sûr.
on est dans cette
Non, non, bien
logique.
sûr. Après, moi, je pense quand même, Sylvain, que Mendy Bamou, c'est pas incompatible, peut-être contre, notamment en fin de match, quand il faut envoyer des longs ballons
Non,
pour
mais
aller,
c'était ça mon
voilà.
idée en fait. C'était
Ouais.
ils joueront très peu souvent titulaires ensemble.
Titulaire. Ah,
C'est ça l'idée.
ouais.
Donc
Non, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Après, je pense quand même que Bamou peut prendre ce rôle que tient Gioacchini actuellement. Mais voilà, moi je pense en tout cas que contre Niort, l'équipe va être la même que lors des derniers matchs. Il n'y a pas de raison de la changer. Et on aura en plus des solutions sur le banc qui vont faire un grand bien, je pense.
même question que pour le camarade Adrien Casanova du Courrier Cauchois tout à l'heure. Quels sont le ou les joueurs que vous attendez au tournant dans les 3 prochains matchs pour le Stade Malherbe?
Bah, j'en ai beaucoup parlé, on l'a pas vu depuis le début de saison, c'est Caleb Zaliseri. J'avais beaucoup, beaucoup aimé
Absolument.
ce joueur la saison dernière, qui est un petit peu irrégulier. Je pense que s'il arrive à gagner en constance, c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien à l'attaque du Stade Malherbe, qui est un petit peu en dedans en ce début de saison. Et puis Alexandre Mendy, j'ai hâte de le découvrir. Finalement, j'attends beaucoup des joueurs qu'on n'a pas encore vus. Peut-être même Gioacchini, j'attends qu'il confirme son bon match contre Amiens dans un poste enfin où il se sent à l'aise. J'espère qu'il va continuer à performer comme il l'a fait contre Amiens.
Rendez-vous samedi donc pour le Stade Malherbe de Caen avec ce déplacement du côté de Niort, un déplacement que l'on attend tous parce que déplacement contre une des belles équipes de ce début de saison, les Chamois niortais. Il va falloir être solide pour les Canets. Messieurs, troisième partie, Adrien Casanova, vous avez eu le temps de bûcher, de réfléchir, de mettre votre nez un peu partout pour savoir. Parmi les 13 matchs, et on ouvre notre page foot régionale, c'est la Coupe de France qui sera à suivre tout le week-end prochain, le 5e tour. 13 matchs plus un 14e qui ne devrait peut-être pas receler de surprise. C'est la plus grosse équipe hiérarchiquement qui rentre face à une des plus petites, Troarn-Avranches. Net avantage aux Avranchinés, Adrien.
Oui, sur le papier, il y a une large différence entre les deux équipes. Sur ces tours-là, la hiérarchie doit être respectée. En tout cas, c'est le message, je pense, qui sera véhiculé par le coach d'Avranches. Après, il faut toujours se méfier. Un match à l'extérieur sur un terrain un peu difficile. On connaît la Coupe de France avec ses surprises. Donc, faut voilà, toujours être prudent, vigilant de la part des grosses équipes. Mais oui, normalement, Avranches a mes faveurs sur ce match.
Alors, sur les autres rencontres qui vont se dérouler partout en Normandie sur ces 2 jours de compétition qui sont toujours haletantes, on arrive bientôt à la fin du périple régional, on arrive bientôt au premier tour national. C'est plus le moment de se rater pour les gros dont c'est l'objectif, et puis c'est le moment de profiter à fond pour les plus petits. Quelles sont les surprises potentielles et où est-ce qu'il faudra que l'on ait les yeux du côté au Normand avec vous, Adrien?
Du côté au Normand, ouais, j'ai ressorti 5 rencontres. Hein. Tout d'abord, on aura Romilly contre le FC Rouen. Et sur cette
Surprise
rencontre,
possible là? Surprise
oui,
possible là?
moi
Ah,
sur ce match-ci,
expliquez-nous pourquoi.
je vois tout
Expliquez-nous.
à fait une surprise puisque Romilly vient de monter en N3. Et puis surtout, en fait, le FCR n'est pas dans une forme optimale depuis le début de saison. C'est un petit peu compliqué. Le terrain de Romilly est lui aussi compliqué. C'est un petit terrain. Aller jouer là-bas n'est jamais évident. Donc sur ce match-là, un match de Coupe de France entre deux équipes qui se connaissent bien, je vois tout à fait Romilly emmener par exemple le FCR au tir au but et pourquoi pas créer la surprise. Voilà.
Autre
Romilly.
surprise peut-être, dites-moi.
Autre surprise, je vais espérer une surprise de la part de l'US Lunaret contre Évreux. Donc là, on a aussi un beau duel entre une R2 et puis N3. Lunaret devant son public à domicile, avec notamment, enfin, c'est une équipe qui a bien recruté cet été, peut créer la surprise. C'est une équipe qui a été habituée par le passé à franchir des tours en Coupe de France. Ils ont été 2 années notamment au 7e tour. Donc j'ai envie de croire en l'exploit de Lunaret contre Évreux. Et puis.
Allez, un dernier, un dernier. Allez, la pièce en l'air, on y va. Allez, on se mouille.
Allez,
Allez.
un dernier. Je vais en tout cas demander au Pavilliers d'être méfiants, puisqu'ils iront à Pont-Audemer, club de R3, mais Pont-Audemer a aussi bien recruté pendant l'été, a notamment sorti Yvetot, un autre candidat cauchois, au tour
Exact,
précédent. Ils ont
exact.
poussé Yvetot jusqu'en prolongation et puis au tir au but, et puis au tir au but, ils ont battu Yvetot. Donc il faudra se méfier aussi de Pont-Audemer, notre Pont-Audemer qui est d'ailleurs sur un excellent début de saison en R3. Donc voilà, méfiance pour les Pavilliers.
Et donc, comme c'est un podcast, on pourra évidemment vérifier vos pronostics et évidemment vous donner les solutions la semaine prochaine. Maxime, bah vous allez faire cet exercice-là aussi avec les clubs de Basse-Normandie. Est-ce que vous avez identifié de potentielles surprises?
Allez, moi, j'en ai une pour vous, Sylvain. Ça va être Villers-Houlguette qui va aller battre Gonfreville.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise?
C'est une petite surprise. Il y a une seule division d'écart. C'est à l'extérieur en plus pour Villers. Donc, c'est le nouveau club d'Ismaïla Ndiaye, l'ancien milieu de terrain canet. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Voilà, j'espère qu'ils vont aller battre nos amis de Gonfreville. Voilà, ça sera mon petit prono.
Allez, le petit prono, il y en aura un autre de match à suivre très important aussi entre Tours-la-Ville Régional 1 et Salo National 3, une seule division d'écart. Et on sait que Tours-la-Ville, en plus, est déjà venu à bout de Bayeux et de Cherbourg dans son parcours. Deux autres équipes de National 3, match très sympa à suivre. Vous pouvez retrouver évidemment tout le menu de ce cinquième tour. Et voyez, on parle de Coupe de France, tout le monde est content, c'est tout, Maxime. Et on l'a évidemment, ce menu sur tendanceouest.com, sur le site officiel aussi du Courrier Cauchois. Je pense que vous allez en faire un petit mot. Mon petit doigt me dit ça, Maxime, sur votre site Malherbe Inside de ce cinquième tour de la Coupe de France. Merci à vous deux d'avoir été en notre compagnie pour débriefer l'actu du hack du Stade Malherbe et évidemment du foot dans la région. On se dit très bonne semaine, bon match au pluriel tout ce week-end et on se dit à mardi prochain. Salut.
Salut Adrien, salut Sylvain.
Salut Sylvain, salut Max.
Podcast by Tendance Ouest.